Barbara Jean-Élie, bonjour.
Bonjour Victor.
Vous pouvez vous présenter?
Je m'appelle Barbara, je suis née le 22 juillet 1967, 2017, donc j'ai 50 ans, un âge super. Et je suis martiniquaise et je suis super contente d'être ici. Et voilà, donc je me définis au niveau professionnel comme une journaliste, une femme des médias parce que j'ai travaillé à la télé, à la radio et que j'aime ça, mais profondément journaliste. Et puis une curieuse, et puis une maman, parce que j'ai une fille de 10 ans qui m'occupe beaucoup et que j'adore. Et quoi d'autre? Une martiniquaise, je l'ai dit, une caribéenne, voilà, et une française. Je suis dans cet espace aussi monde, quelqu'un qui aime voyager, qui aime aller à la rencontre des autres, qui aime transmettre aussi, beaucoup, ça me définit, je pense. Et puis voilà, on va s'arrêter là.
Oui, Barbara, ça fait 17 ans que vous êtes partie de la Martinique.
Ça fait 18 ans, très exactement. Je suis partie en août 99. Voilà, donc je vis à Paris, en région parisienne, très exactement.
Qu'est-ce qui vous avait poussé à partir à l'époque?
Pousser, c'est pas le mot. Rien ne me pousse. C'est-à-dire que j'ai envie, je fais. Donc rien ne me pousse. Pousser, ça fait un peu qu'on est chassé de quelque part. Non. Je travaillais à ATV. Ça faisait un moment que je travaillais à ATV. J'avais contribué à lancer cette chaîne parce que je faisais partie de la première équipe.
Vous y avez passé combien de temps?
J'y ai passé, mais j'ai commencé avec la naissance de la chaîne, même avant, puisque j'avais été recrutée dès la première équipe. Et j'avais même recruté des gens qui nous ont rejoints après. Donc c'était je crois qu'on a lancé la chaîne en février, le 11 février 93, il me semble. Et je suis partie donc en mai 99. Je suis partie d'ATV parce qu'il y avait un changement d'actionnariat, que j'avais plus envie de rester. Ça faisait un moment que j'étais là. Bon, je pensais avoir fait le tour un petit peu de la question à l'époque. Et puis, j'avais envie de goûter d'autres aventures. Donc, il y avait des opportunités qui se faisaient jour, notamment celle de créer une nouvelle chaîne de télévision urbaine en France Trace, qui était donc un peu l'initiative d'Olivier Laouché, qui avait rejoint Kenzie Jérôme Ebella à Sectora. Donc, il portait un projet de création de chaîne à un moment où, en France, on parlait beaucoup d'absence de visibilité des Noirs à la télévision, des jeunes et de leur culture, donc les jeunes des banlieues, que ce soit les Antillais ou les Africains. Et Sectora était un label de rap qui avait du mal à exposer ses artistes. Donc Olivier, avec Jérôme et Bella, donc Kenzie, ont développé un projet de chaîne qui était celui de Trace, donc chaîne des cultures urbaines. Donc il m'a proposé de venir les rejoindre. J'ai accepté de bon cœur. Bon, le projet qui devait naître en 99 et finalement né 4 ans plus tard, parce qu'il a fallu trouver des fonds, etc. Donc, c'était un combat assez long pour Olivier et pour nous. Et voilà, donc en 2003, cette chaîne a finalement vu le jour. Donc voilà, j'étais pas poussée, mais j'avais envie de faire autre chose. Donc je suis partie de mon île où j'étais bien, hein, mais bon, avec l'envie de peut-être de me frotter à d'autres challenges, un autre monde aussi. J'avais fait mes études à Paris, donc je connaissais un peu. Je m'étais promis de ne pas revenir en France, d'ailleurs, après mes études. Non pas que j'avais vécu de mauvaises expériences, mais que j'étais bien en Martinique, tout simplement. Et puis bon, la vie fait que vous dites oui à des opportunités qui se présentent. Moi, je pense que la vie, c'est ça, quoi. Finalement, c'est de rester un peu avec les oreilles ou les yeux bien ouverts et pas avoir peur de se lancer sur de nouveaux challenges. Je pense que fondamentalement, c'est ce qui m'intéressait, oui.
Aujourd'hui, vous avez passé combien de temps à Trace?
J'ai passé alors 12 ans à partir du moment où Trace s'est lancé, mais si on compte les 4 années de gestation et de recherche et de réflexion, etc., 16 ans en tout, donc, puisque de 99 à 2003, donc on a travaillé au lancement de la chaîne. Entre temps, donc moi je travaillais à Sectora, j'étais aussi correspondante pour Antilla en France, notamment pendant quelques temps. Mais donc le travail en fait de gestation et de préparation de la chaîne pour trouver des fonds, ça a pris 4 ans. Donc 16 ans en tout avec la période de pré-lancement, on va dire, et 12 ans en fait en tant que directrice des programmes de Trace Urban dans un premier temps, puis à partir de 2011 de Trace Sport Star qui était la nouvelle chaîne des champions de Trace.
Et ensuite donc vous avez arrêté l'aventure Trace.
J'ai souhaité, là encore, c'est-à-dire, voilà, au bout de 16 ans, je pense que 16 ans dans une société, c'est beaucoup. Donc moi, j'ai eu envie de faire un break, en fait. Donc pas parce que j'étais mal là, mais bon, toujours l'envie de découvrir des choses et d'apprendre, quoi. Et donc, j'avais décidé de faire un break. Parce que, aussi, j'avais envie d'écrire, mais finalement, il y a une autre opportunité qui s'est présentée à moi, qui était celle donc, d'occuper un poste au sein du cabinet de la ministre des Outre-mer de l'époque, qui était Georges Poulange, pardon. Et donc, ma disponibilité mentale, on va dire, à connecter avec une opportunité réelle. Mais je pense que finalement, les choses sont assez liées. Donc, il y avait cette opportunité-là, moi qui voulais partir. Donc, ça a bien matché. Quand on m'a dit, est-ce que vous voulez rejoindre le cabinet? Bon, j'ai considéré que c'était un challenge intéressant à relever. Donc, j'ai dit oui. Et parce qu'il s'agissait aussi de Georges Poulangevin, qui était quelqu'un que je ne connaissais pas bien, mais que je connaissais. Je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre que je ne connaissais absolument pas, j'aurais probablement pas dit oui. Dans un environnement qui était quand même bienveillant, en fait. Et donc, je pense que j'ai fait mes classes vraiment dans du confort avec un chef de cabinet, je le dis, un directeur de cabinet qui était vraiment très à l'écoute. Et puis une ministre, surtout, qui était vraiment super et très à l'écoute aussi. Quelqu'un de très courageux, de très professionnel et de très concentré, quoi, sur sa mission.
Barbara Jindy, vous avez été au cœur du réacteur, puisque lorsqu'on est au ministère des Dom-Tom,
on est des
Outre-mer, mais enfin, ouais. on est au courant de tout. Enfin, je veux dire, là, vous avez compris comment le système fonctionne, quoi.
Je ne sais pas si j'ai compris. Je pense que c'est un système qui est quand même un peu compliqué, le système administratif français. Donc, on ne voit pas tout. Après, les Outre-mer, c'est quand même un ministère. Bon, je venais de loin. Hein. Je venais d'une chaîne urbaine, de la rue, etc., de rap. J'ai eu quand même à apprendre des choses. Hein. Je veux dire, pas la science infuse. Donc, il faut garder un peu de modestie. Et donc, j'ai compris certaines choses. En tout cas, c'était très intéressant pour moi, qui suis journaliste à la base et qui aime un peu la sociologie, par exemple, d'être dans ce système. C'est clair que si on veut faire bouger les choses, être au sein du ministère, en tout cas de ministre, hein, moi, je n'étais pas ministre, j'étais conseillère, en tout cas, être au sein du ministère. Et c'est là qu'on peut effectivement faire un peu bouger les choses. Ceci dit, le ministère des Outre-mer, c'est un ministère extrêmement complexe, puisque c'est un ministère qui regroupe toutes les prérogatives qui sont sectorisées, par exemple, dans d'autres ministères. Il y a l'économie, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a la culture, il y a le sport et tout, et tout, et tout. Et puis, en plus, qui a à voir avec une douzaine de territoires, quoi. Donc, c'est pas facile d'être ministre des Outre-mer. Et donc, quand on est là, dans une thématique un peu sectorielle, comme c'était mon cas, donc sport, culture, vie associative, on comprend des choses, mais on comprend pas tout. Par exemple, je ne suis pas spécialiste d'économie. J'ai pas la prétention d'avoir tout compris des problématiques qui se posaient en matière économique ou même d'agriculture, les problèmes de l'Europe, etc. Bon, donc soyons modestes. En tout cas, voilà, toucher du doigt la complexité de ces fonctions-là et la complexité de ces thématiques, la complexité et le sérieux qu'il faut développer à mettre et approcher ces thématiques pour y répondre de façon consciencieuse et bien, enfin, et comment consciencieuse, on va dire. Ce fut l'occasion de le faire. Mais je pense avoir approché les choses, mais je ne suis pas devenue. J'ai probablement pas tout compris au cours de l'année et demie que j'ai passée là, quoi, clairement.
Comment vous expliquez que vous ayez été, vous, recruté qu'est-ce que vous apportiez? Qu'est-ce qu'on attendait de vous à l'époque, vous qui aviez une connaissance relativement large sur la question de la culture, de la musique? Qu'est-ce qu'on attendait de vous précisément?
Enfin, je pense que cette ministre, Georges Poulangevin, qui est une femme que j'aime beaucoup, vraiment, et c'est tout à fait sincère, c'est quelqu'un de très ouvert et qui fait confiance, et elle aurait pu ne pas me faire confiance, mais qui est ouvert, quoi, qui fait confiance aussi à l'intelligence, donc je m'envoie des fleurs en passant, mais bon, et qui est aussi, il y a quand même une volonté de varier finalement les profils, et je pense que c'est tout à fait appréciable. C'est vrai que le reproche qu'on peut faire très souvent à l'administration française ou au monde politique, c'est d'être très endogame, quoi. Tous les gars sortent de l'ENA, ils ont fait le même parcours, ils sont... Voilà, donc il y a un côté un peu microcosme qui, à mon avis, est préjudiciable. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que je faisais un peu tâche dans cette espèce d'environnement où les gens avaient quand même des parcours d'excellence administrative, grandes écoles, ENA, etc., cours des comptes, etc. Enfin bon, un milieu qui m'était complètement étranger. Moi, j'ai apprécié, en tout cas, je suis reconnaissante à mes collègues d'alors parce qu'ils m'ont acceptée telle que j'étais, donc avec mon côté un peu funky, mon côté culture urbaine. Et je ne me suis pas travestie, donc, et j'ai eu la possibilité de ne pas avoir à devenir quelqu'un que je n'étais pas, donc super. Et puis, je pense que si j'avais voulu me déguiser, ça ne serait pas passé non plus. Donc, je n'ai pas eu le choix que d'être exactement la personne que je suis. Et grâce à la ministre, qui, à mon avis, était allé chercher ça, quoi. Donc, je suis vraiment d'une gratitude tout à fait sincère et à son égard, parce que c'est pas gagné. Mais il y avait cette volonté, à mon avis, peut-être de toucher effectivement sur le thème de la culture, notamment puisque c'était quand même une de mes prérogatives, en tout cas de travailler à quelqu'un qui sortait du moule, quoi. Et bon, c'était pas, je pense que tout le monde n'aurait pas fait ce choix là en tout cas je lui en sais gré, quoi, de m'avoir permis en tout cas de connaître, d'avoir cette expérience.
Depuis, si j'ai bien compris votre parcours, vous êtes devenu entrepreneur.
En fait, je l'étais déjà, parce que j'avais créé une société en 2014. J'ai créé une société Diaspora Mix avec le statut donc de société de production audiovisuelle, mais avec un des statuts très large qui me permet de faire du coaching, par exemple, de lancer des sites internet, avec le sous-titre donc Diaspora Mix, culture, création, communication. Donc avec des statuts vraiment super larges, si je veux faire de la création, si je veux faire de l'édition, si je veux faire de la production de spectacle, je peux. Et donc, cette société, parce que je travaillais à Trace et puis que finalement j'ai rejoint le cabinet de la ministre, était mise en sommeil, en fait. Donc, quand je me suis retrouvée au chômage à la fin du mandat, de l'expérience, puisque la ministre a démissionné l'année dernière, en 30 août, il me semble, 2016, mais j'étais au chômage, donc je me suis dit, bon, je vais relancer ma boîte, quoi. Et je vais m'en occuper, je ne m'étais absolument pas occupée du truc. Donc j'ai relancé ça en me disant, mais tiens, je vais poursuivre ma collection, parce que j'avais déjà écrit le texte, en fait, du deuxième livre. Et donc, je me suis mise à travailler, donc en me disant, ben voilà, d'auteur, mais je vais produire, parce que j'aime apprendre, j'aime bien m'occuper d'un truc de A à Z, quoi. Donc, c'était vraiment exaltant, et donc je l'ai fait. Entre-temps, j'ai été rappelée à la Direction Générale des Outre-mer, donc là, côté administration, cette fois, pas côté politique, donc pour m'occuper de la Cité des Outre-mer. Donc, j'ai accepté, parce que c'est un dossier qui m'avait beaucoup intéressée au sein du cabinet de Mme Georges Poulangevin, donc j'ai accepté d'accompagner ce projet-là, avec la perspective de lancer la Cité des Outre-mer, ce que nous avons fait avec le président de la République le 17 mars 2017, donc François Hollande, la ministre d'alors, Madame Barrèche. Et voilà, donc. Mais j'ai continué à travailler sur mon truc. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la volonté. Bon, je suis un peu une entrepreneur qui débute, on va dire, hein. C'est vrai que sauf à part mes débuts, quand même. J'ai quand même commencé dans le métier de journaliste comme travailleur indépendant. Pendant quelques années, avant de rejoindre ICS, j'étais travailleur indépendant, j'ai fait beaucoup de communication ou de presse institutionnelle. Mais c'est vrai que j'ai renoué avec un passé un peu lointain, qui est celui d'entrepreneur. Mais que je réapprends, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, voilà, qu'il faut que je me cadre un peu. C'est vrai qu'il y a ce projet de livre donc, qui m'occupe à fond. Mais au-delà, j'aimerais vraiment structurer une activité, notamment avec un pied bien enfoncé en Martinique, de production audiovisuelle très spécifique, plutôt institutionnelle, et puis bon, continuer ma série et aller le plus loin possible finalement dans l'animation finalement de cette collection. Donc c'est au-delà du livre, c'est peut-être du spectacle, etc. Donc voilà, voilà où j'en suis, avec des tâtonnements, soyons clairs, et puis mais l'envie ancrée de développer, quoi, de me développer sur cet axe-là, clairement.
Mais Barbara, vous avez malgré tout aujourd'hui, même si vous parlez de tâtonnement, une vraie expérience. Je veux dire que par exemple, l'expérience que vous avez faite avec Trace, c'est quand même assez exceptionnel. Il faut savoir aujourd'hui que Trace est devenue une chaîne mondiale, que vous avez, Trace, c'est la première chaîne africaine de musique. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, vous avez aussi un certain nombre d'atouts qui sont indéniables, c'est-à-dire que vous êtes constitué entre-temps un réseau tout de même.
Ben, les réseaux se réajustent. Les gens, par exemple, quand je suis partie de la Martinique, je connaissais toute la classe politique, par exemple. Ça fait 18 ans que je n'y vis plus. Je ne connais pas tout le monde. Donc les réseaux, les gens changent, les gens bougent. Que ce soit dans l'administration, quand vous avez un réseau, tous les 3 ans, les gars bougent. Hein. Donc le réseau, je pense qu'une méthode, c'est intéressant. La méthode, je l'ai probablement. Le fait qu'aujourd'hui, je puisse avoir envie de défoncer des portes ou ne pas avoir peur de revenir par la petite fenêtre, etc. L'expérience y est probablement pour beaucoup. Le réseau, c'est bien. Mais le réseau se travaille, quoi. Un réseau, ça peut se travailler ou se retravailler, etc. Donc, en tout cas, je pense avoir la méthode. Après, la fibre, il faut la travailler parce que j'étais quand même souvent salariée. On ne va pas se voiler la face. Donc, j'apprends ce métier-là, même si ça m'intéresse. Je n'ai pas peur de faire face à des choses que je ne connais pas. Ça n'a jamais été mon cas, donc c'est super. Mais il faut rester tranquille et puis modeste et se dire voilà, que chaque jour, il faut apprendre, il faut se faire aider, il faut se faire épauler, il faut frapper aux bonnes portes. Par chance, effectivement, ce qui est quand même appréciable dans mon cas, et je ne vais pas le cacher, c'est que je bénéficie d'une relative bonne image. Et donc, quand je frappe aux portes, c'est vrai que peut-être que, pas tout le monde, mais bon, régulièrement, les gens sont plutôt bienveillants, ils m'écoutent, donc voilà, bon. Mais bon, il faut travailler pour pouvoir structurer une activité, quoi. Donc, Il faut pas se voiler la face, c'est un travail, il faut continuer à apprendre, il faut se faire entourer, donc, et il faut prendre ça avec sérieux.
D'accord. Alors, on va essayer de découvrir un peu plus votre projet, même si vous avez commencé par faire une édition, votre propre édition, pour faire votre expérience très probablement, hein, pour aller jusqu'au bout de l'expérience. Aujourd'hui, c'est quoi le métier que vous faites? C'est celui d'éditeur ou d'auteur?
Je suis les deux. Moi, je suis. Déjà, j'aime pas être cataloguée, j'aime pas être mise dans une case. Ah ben, je pense que ça échoue, on échoue à vouloir me mettre dans une case. Je suis dans aucune case. Je suis une femme moderne, entreprenante, qui aime écrire, qui est. Voilà, donc. Si vous voulez me mettre dans la case édition, c'est même pas dans mon statut principal de ma boîte, quoi. Donc c'est, voilà, je suis quelqu'un de la télé, ben oui, mais je suis quelqu'un de la télé, j'aime écrire, voilà, donc comment vous faites? Donc c'est, je veux dire, ça c'est très français, ça, ce côté, où est-ce que vous êtes, voilà. À l'époque, quand j'étais allée à Paris en 99, je cherchais du boulot, on me disait, ah, mais ton CV, tu montes, tu tournes, machin, c'est pas crédible, tu sais, tu fais trop de choses à la fois. Mais je dis, oui, mais j'aime ça. Ça ne veut pas dire que je suis bonne partout, mais bon, donnez-moi une chance, quoi. Si j'ai envie d'être JRI, journaliste reporter d'image monteuse, donnez-moi cette chance. Mais non, en France, on veut que les gens soient. Si tu es journaliste, tu es journaliste. Tu ne peux pas parler à la télé, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas produire. Je dis que moi, ce que j'aime, par exemple, quand je fais un livre, j'ai écrit mon bouquin. J'ai eu envie de le développer parce que ça m'a permis de manager, de rassembler une équipe de gens polyvalents, de gens différents qui se complétaient. Et voilà, et pourquoi pas? Je trouve que j'ai du mal avec ça en France, en fait. Et c'est super, super français. Parce que moi, on m'a fait ce reproche-là, je me rappelle. J'avais eu un entretien avec un type de Kappa à l'époque. Au moment où, en 99, je cherchais du boulot avant que Trace commence, etc. Je savais que ça allait prendre du temps. Le mec me dit, ah, mais ton CV, tu as ceci, tu as cela, c'est pas crédible. Tu sais, ici, on aime bien que tu aies une spécialité, quoi. Mais voilà. Quand on a commencé à TV ici, on tournait, on montait, on faisait tout. Les gens, effectivement, à l'époque RF, heureusement, ça a changé. Maintenant, ils font tout aussi. Il y a des gens, ah, mon Dieu, c'est quoi? Ils faisaient tout. Enfin, ils ne nous prenaient pas au sérieux. Il faut arrêter ça. Je veux dire, on a un cerveau, vous êtes capable de manger, de parler en même temps, de répondre au téléphone. Donc, au secours, on peut faire. Donc, ma société, je veux faire. Donc, pour l'instant, je fais de l'édition. Donc, j'ai écrit. Mais j'ai envie, par exemple, de mettre ça en spectacle. Donc, à un moment donné, je vais devoir peut-être pas tout faire. Je n'ai pas envie de faire de la mise en scène, mais je vais aller chercher des gens, des compétences. Après, moi, dans ce cadre-là, une fois que j'ai été auteur, donc j'ai fait mon texte, il a fallu que j'apprenne le côté production, par exemple. Mais, et alors? Je l'ai fait. Et puis voilà, je veux dire, c'est si on a envie de bosser, si on n'a pas peur de travailler, on peut faire plein de choses. Il ne faut pas se laisser cataloguer, assigner à résidence, quoi, j'ai envie de dire. Moi, je ne suis pas assignée à résidence. J'ai envie de faire ça, je fais. Après, si effectivement je ne peux pas ou je n'ai pas les moyens, ben j'arrête. Mais voilà, donc.
Alors, par contre, ce qui est intéressant, Barbara, c'est que vous prenez un pari audacieux tout de même, qui est celui de faire des produits culturels.
Ouais, mais j'ai souvent, enfin, à TV, j'ai pas fait que ça, parce qu'à TV, j'étais dans la télévision généraliste. Après, c'est vrai que c'est un domaine. Bon, à Trace, j'ai fait exclusivement que ça, quoi. J'ai fait de la musique. Quand j'écris, bon, j'ai commis un roman en 2010, bon, je fais œuvre d'auteur, donc j'écris, bon, machin. Après là, c'est vrai que ça m'intéresse de travailler avec des enfants, mais la culture, c'est important. La culture, c'est dire qui on est, c'est rencontrer l'autre.
C'est votre matière première, de toute façon, la culture.
J'aime aussi la politique, hein. J'aime beaucoup, beaucoup la politique, hein. Mais c'est vrai que la culture, bon, qui est un domaine dans lequel j'évolue depuis quelques années, mais avec Trace, et aussi mon ministère finalement, mais c'est un domaine qui est extrêmement important parce que c'est l'endroit où les gens se rencontrent, en fait, fondamentalement, avec parfois peut-être plus de bienveillance ou peut-être d'ouverture. Bon, quand on parle de politique, j'en parlais à l'instant, les gens se rencontrent aussi, mais ils s'affrontent, quoi. C'est l'un contre l'autre, ils vont aux élections, si je gagne, tu perds, etc. Alors que la culture, c'est un domaine où l'homme peut vraiment faire valoir sa dimension d'homme, en fait. Et un homme, c'est quelqu'un qui vit avec d'autres personnes. Même la notion de... On n'a pas besoin de la notion de civilisation, de société, pour dire qu'un homme a besoin de vivre avec un autre homme, puisque pour se reproduire, il faut qu'ils soient ensemble. Donc, je trouve que c'est un domaine qui est super riche et qui offre une liberté qui est fort intéressante. La difficulté tout de même dans cette question-là, c'est la difficulté du marché de la culture. Parce que vous intervenez, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, ou même quand vous êtes auteur, vous êtes créateur, vous êtes à un moment ou à un autre confronté à la dimension marchande, commerciale. Parce que l'auteur ou bien le créateur de musique qui écrit sa chanson, le type, il peut écrire, il se fait plaisir, mais il faut qu'il mange et boive à la fin de la journée. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est une question, effectivement, que pose la culture. Mais la première acception de la culture, qui est effectivement cet espace de communication, de rencontre, c'est effectivement ça me passionne. Ça m'intéresse. En tant que journaliste, ça m'a beaucoup intéressée. Et j'ai beaucoup travaillé avec les artistes. En tant que conseillère aussi, ça m'a intéressé de travailler avec les artistes, de les aider, de les écouter, de trouver le moyen parfois d'aider à promouvoir leur travail. Oui, c'est des questions qui... C'est un peu ma matière première, oui, clairement.
Et comment vous percevez aujourd'hui le marché des produits culturels, en particulier cette manière d'acheter qui a complètement changé? On n'est plus sur un CD, mais on est sur du téléchargement. Enfin bon, je dis, vous êtes au fait de tout ça. Alors, quelle est votre vision?
Mais c'est dur. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont, par exemple, des artistes, des musiciens. C'est extrêmement dur pour eux parce que le mode de consommation, les gens sont habitués à la gratuité. C'est une banalité de le dire, mais c'est vrai. Les gens sont habitués à ne pas payer, quoi. Quand vous êtes... Moi, j'ai eu l'occasion d'écrire des chansons, par exemple, ou d'être co-auteur de chansons. Une des dernières fois que j'ai reçu un bulletin SACEM, où j'avais une petite partie d'un titre qui a quand même été vu, je crois, 27 000 fois sur YouTube. Oui, le clip. J'ai gagné 13 centimes, 27 000 fois. J'avais 11,5% d'un titre. Comme auteur, j'ai gagné 13 centimes. Quand on ne s'appelle pas Rihanna, qu'on ne s'appelle pas Psy, qu'on ne s'appelle pas... les gens ne gagnent rien avec les nouveaux modes de consommation. Donc, ils sont obligés de réfléchir à d'autres modes d'expression pour vivre. Parfois, ça va loin. Parfois, ils sont même amenés à ne même pas devoir exercer leur talent. Par exemple, un chanteur, il va vendre son image. Alors, il peut être amené. Alors, s'il fait du concert et qu'il effectivement a la chance de pouvoir se produire, c'est super. D'ailleurs, beaucoup sont obligés de chercher des dates. Alors, là, on est confronté à l'exiguïté de territoire, etc. Mais bon, il y en a qui s'en tirent bien quand même. Mais ça relève quand même du parcours du combattant, d'aller chercher effectivement des lieux, etc. Et puis, il y a aussi aller chercher tous les autres modes d'expression qui permettent de ramener les gens à soi, les ramener les gens au concert. Donc, il faut vendre son image, il faut communiquer de façon extrême, permanente et extrême. Et donc, ça a vraiment bouleversé le paysage. Au point que, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les Google, les Amazon, enfin, les GAFA, là, les gros pourvoyeurs enfin, les gros tuyaux, quoi, parce que les Facebook, etc., ils se servent de nous, hein. C'est nous qui créons de la richesse pour ces gens-là. Ils sont milliardaires, ces mecs, tous les Américains, là, tous les Amazon, les Facebook et les Google. Mais ils ont besoin de matière. Mais les auteurs, les créateurs ne sont pas rémunérés, quoi, en fait. Et ça pose des questions au-delà même de l'art, hein, qui sont des questions qui sont fondamentales, qui sont des questions d'éthique. Lors des dernières élections présidentielles, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que Hamon pose la question du travail, par exemple. Mais ces modes de consommation, ces modes de fonctionnement de nos sociétés depuis 20 ans repose effectivement de façon complètement radicale la question de notre rapport les uns aux autres, la question du travail par exemple. Hamon l'a posé de façon un peu partielle, mais ces questions-là se posent de façon criante. Le travail aujourd'hui n'a pas le même sens. La rémunération du travail aujourd'hui n'a pas le même sens. Aujourd'hui, nous sommes des consommateurs, mais nous sommes presque exclusivement des consommateurs parce que nous avons en permanence un truc qui s'appelle un téléphone portable dans notre main qui ne sert plus à téléphoner, mais qui nous sert à consommer. Voilà, donc la question de l'art, c'est effectivement un des aspects de ces nouveaux modes de cette mutation. Et effectivement, il y a une question criante de l'état, quoi, du sort de nos artistes. Mais en même temps, j'ai envie de dire, pour pouvoir être un peu provocatrice, dernièrement, je regardais, j'ai revu un documentaire sur Eugène Mona, qui est un gars, qui est un artiste que j'adore, et Eugène Mona, à la fin de sa vie, a connu des moments très difficiles. Eugène Mona, qui avait eu beaucoup de succès dans les années 70, il est mort en 91. le 23 septembre 1991, mais sur la fin de sa vie, Eugène Monnat, qui était probablement aussi dans une réflexion profonde sur le sens de la vie, c'était quelqu'un de très spirituel, avait du mal à trouver son public, parce que son public ne l'a pas compris. Alors pour d'autres raisons, j'imagine que les concerts d'Eugène Monnat, à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc., m'étaient beaucoup moins, comment dire, courus, qu'à l'époque, moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir Eugène Monnat au théâtre municipal, là, au théâtre, à l'époque, c'était l'ancien hôtel de ville, c'était extraordinaire. Mais Eugène Monnat a pris du fer, quoi, à la fin de sa vie. Eugène Monnat avait du mal à gagner sa vie, tout simplement. Il lançait un appel, d'ailleurs. Il avait laissé des urnes pour faire un appel aux dons, etc., pour faire son projet. Et les gens ne... Donc, le statut de l'artiste aussi est toujours... On est dans un cadre qui est aujourd'hui celui de Coco René Corail. Coco René Corail, il y a une très belle exposition ces jours aussi, donc chez Clément. Coco René Corail était quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Donc, le statut de l'artiste, c'est quand même un statut qui, intrinsèquement, est un statut dans la société qui est précaire, qui est particulier, quoi. Donc, mais bon, les nouveaux modes de consommation posent la question de notre rapport en tant que consommateur à l'art, effectivement. Je connais récemment, j'ai eu l'occasion d'interviewer un garçon que j'adore, qui s'appelle Éric Pédurand, pour mon site Diaspora Mix. Éric m'a avoué, bon, j'étais la première surprise et la première à déplorer, qu'il arrêtait la musique. Mais intrinsèquement, fondamentalement, ce que je déplore, parce que c'est un garçon extrêmement talentueux, mais vraiment qui est l'un des plus doués de sa génération.
Vous aviez fait un super reportage sur votre site, d'ailleurs.
C'est gentil. Mais Éric me dit, alors moi j'avais vu que sur Facebook, il disait qu'il avait un concert au Café de la Danse, il dit c'est le dernier. Je lui dis, mais c'est quoi ce truc? Donc il m'a accordé une interview, il me dit, ouais, j'arrête la musique. Quand on écoute Éric, Éric vous dit très clairement qu'il ne peut pas vivre de sa musique, parce qu'il aurait fallu qu'il fasse des concerts tout le temps, et il dit, ouais, mais les gens, quand vous produisez 3-4 fois dans la même année auprès d'un public qui vous connaît, il vous dit que c'est trop. Mais bon, dans son cas, il aurait fallu qu'il se produise plus. Mais c'est extrêmement grave, parce que l'artiste questionne notre société, l'artiste fait, à mon avis, qu'on se rapproche de notre... comment dire, de notre état d'humain, quoi, en fait, plutôt que de notre être social ou de notre être formaté. Donc c'est fondamental de réfléchir à ces questions-là, effectivement, et de trouver le moyen, quand c'est possible, ben, de répondre à cet impératif d'aider nos artistes, de les soutenir, et en tout cas de faire en sorte qu'ils puissent continuer à créer, parce qu'une société sans culture, c'est une société qui ne va nulle part, c'est une société qui va oublier très vite qui elle est. Donc c'est fondamental.
D'accord. Alors, ce qui m'intéresse en plus dans l'expérience que vous avez eue, Barbara, c'est que vous avez été aussi diffuseur, et à travers l'expérience de Trace notamment. Vous savez que les artistes antillais ne cessent de répéter qu'ils n'ont pas les réseaux de diffusion qu'il faut. Alors, aujourd'hui, vous en êtes où de votre réflexion sur cette question pour vous qui êtes de l'autre côté de la barrière aujourd'hui?
Mais moi, je ne suis plus diffuseur. Hein. J'étais, moi, directrice des programmes à Trace, mais je ne le suis plus. Bon, je pense qu'il y a vraiment une question, effectivement, liée à la diffusion. Moi, quand j'ai travaillé donc sur un projet qui était celui de Cité des Outre-mer. Précisément, c'est un projet qui avait vocation, enfin, ce lieu a vocation à être un lieu vitrine des Outre-mer, donc au niveau culturel, mais pas que, en termes aussi de production scientifique, etc., etc.
Qu'est-ce qui devient, ce projet?
Il faut aller voir le ministère de l'Outre-mer. En tout cas, moi, j'ai travaillé sur ce projet-là, qui a été lancé à la Villette par le président François Hollande en mars.
Et juste 2017. Avant son départ.
Oui, mais c'est un projet, ça prend du temps. Il faut pas... Ça, c'est des remarques un peu faciles, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense que 5 ans, alors je le dis sans embâche, pour moi, 5 ans, un quinquennat pour travailler, je suis contre ça. Moi, je trouve que 5 ans, c'est trop court. Il faut au moins 7 ans, et voire 7 ans renouvelables. Moi, je serais pour... Si on devait mener une réforme institutionnelle ou constitutionnelle, moi, je serais pour le septennat renouvelable. 5 ans, c'est court. Mais les gens ont travaillé. Après, bon, il y a des rumeurs de remaniement, il y a des remaniements, donc il y a toujours des coups d'arrêt. Okay, donc ça, il faut se mettre en tête et... Ce qui est vrai en concernant ce projet, c'est que ça fait 16 ans. Hein. C'est pas, il a fait ça à la fin parce qu'il s'est engagé à la fin. Et ça a été fait. Donc oui, ça a été fait. Il a tenu ses engagements. On ne peut pas lui en faire le reproche. Le lieu a été trouvé. Il y avait un budget de 10 millions d'euros qui était inscrit dans la loi de finances 2017. Hein. Il y avait, donc Mme Éric Cabarès a fait voter 10 millions d'euros pour réhabiliter, reconstruire un bâtiment que nous avons trouvé, que la ministre des Outre-mer, Mme Poulangevin, a trouvé à la Villette. Donc Hollande, quand il inaugure le truc le 17 mars, il a rempli ses engagements. Il ne faut pas dire qu'il a fait avant la quinquennat. Oui, il y a des choses qui se font avant, Je lui dis, pendant le temps, c'est encore le temps. Après le temps, il est trop tard. S'il n'avait pas fait, on lui aurait dit, ah, mais il n'a pas fait. En tout cas, c'est un projet qui est vieux de 16 ans. Donc, je pense que lui, il a tenu son engagement. Il a tenu son engagement. Donc, on parlait de la diffusion pour venir au sujet principal. Oui, hein, une question de la diffusion. Bon, mais la diffusion, effectivement, j'ai envie de dire, des Outre-mer. En fait, moi, j'ai travaillé aux Outre-mer. Donc, dans des lieux de diffusion, des grandes villes, par exemple. Mais c'est Paris, mais ça pourrait être New York, ça pourrait être Tokyo, ça pourrait être Londres. En tout cas, il y a un rapport, effectivement, très, très, très étroit, parce que la Martinique est française, etc. Donc, les gens veulent aller à Paris. Il y en a d'autres qui vont, par exemple, qui vont essayer de trouver des solutions de diffusion en Afrique, par exemple. On parlait de Trace tout à l'heure. D'ailleurs, parfois avec l'aide de Trace, hein, mais qui vont faire des concerts. Je pense qu'il faut aussi aller vers ça. Après, ça suppose la professionnalisation de certains réseaux qui permettent effectivement aux gens de s'exporter partiellement sur les marges de marché français. Donc, pour parler de la diffusion, oui, il y a une question. Donc, je parlais rapidement de la Cité d'Outre-mer. Ce projet-là a vocation à donner un cadre un petit peu formel à une exposition centrale donc, en France, donc à Paris, puisque le lieu qui a été trouvé, c'est le lieu de la Villette. Super. Mais il y a aussi à travailler autre chose. Par exemple, avec des professionnels de l'export, par exemple, pouvoir aider à des artistes à faire valoir leur art, ben, ailleurs qu'en France, comme je le disais tout à l'heure, avec l'Afrique, etc., etc., au Brésil, hein, que sais-je encore. Donc cette question, elle est posée, que les médias y participent. Moi, je pense que Trace prend sa part de ce travail-là, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est la première chaîne musicale en Afrique. Je pense qu'il y a probablement d'autres outils à mettre en place au niveau central pour accompagner les artistes, les créateurs.
Vous avez entendu parler de cette chaîne que les artistes voulaient faire pour remplacer France O, qui devait devenir une espèce de chaîne nationale de diffusion. Ils avaient pensé aussi à une radio qui soit spécialisée sur l'Outre-mer. Vous avez entendu parler de ça?
Pour la France?
Oui, pour la France.
Enfin, moi, ça me fait... Enfin, non, je n'ai pas entendu parler de ça. Par contre, en 2002, ça me fait rigoler. Hein. En 2002, à l'époque, on avait une société de... Avec Olivier Laouché, on avait créé une société de conseil qui s'appelait Urban Media. Et moi, personnellement, j'avais fait à l'époque une étude pour RFO. J'ai interviewé 750 personnes. À l'époque, il y avait un projet de création de radio, donc public, en Ile-de-France. J'ai interviewé 750 personnes, dont Edith Lefel, dont Aimé Césaire, dont, enfin voilà, avec il y avait une campagne aussi de signatures de gens qui approuvaient ça. Le président d'alors était d'accord, le premier ministre d'alors était d'accord, tout le monde était d'accord. Surtout que là, n'a pas vu le jour, en 2002. Ok, tout le monde était d'accord. Ça a échoué, je ne sais pas pourquoi ça a échoué. Donc bon, je ne sais pas de quoi on parle, mais bon, si vous voulez, de temps régulièrement, il y a...
C'est une éruption.
Non, régulièrement, il y a des projets comme ça qui apparaissent, et puis bon, on ne sait pas pourquoi, ils meurent de leur belle mort, quoi. Je pense que cette question de la diffusion est importante. Après, diffusion en France, oui. Après, il y a probablement éduqué aussi le public... Et aussi peut-être les pouvoirs publics aussi à avoir mené une vraie politique culturelle qui permette au public de rencontrer leurs artistes. Voilà, il faut agir probablement sur plein de domaines, dans plein de directions. Bon, aujourd'hui, pour connaître quelques artistes amis, je sais qu'ils se bagarrent pour trouver des dates avec le soutien de leurs agents, ici et là, quoi, clairement. Mais non, je ne connais pas ce projet. Je n'ai pas entendu parler
d'accord.
De ce projet.
Alors, on va revenir à vous, Bambara. Vous avez pris la décision de retravailler le sol martiniquais. C'est bien ça?
Je ne suis pas devenue agricultrice. Je suis rentrée chez moi pour pouvoir faire valoir le nouveau... Même si j'aime beaucoup l'agriculture et... Mais pour travailler, en fait, l'ouvrage, en fait, Sina le Socal de la Caraïbe. Voilà, quand on fait quelque chose, on peut être frustré si cette création ne rencontre pas un public. Donc je me donne tous les moyens. J'ai décidé que je restais quelque temps là pour pouvoir vraiment, non pas travailler le sol martiniquais, mais travailler chez moi, ma création, en fait, ma production, donc cet ouvrage que j'aimerais faire connaître à tous les enfants de mon île et si possible aussi aux îles voisines, puisqu'on parle de la Caraïbe.
Mais c'est une bonne nouvelle de savoir qu'aujourd'hui vous êtes là, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça plutôt bien.
Merci Victor, merci d'être content pour moi, d'être content de me voir, mais je suis très contente aussi de vous voir. Mais je suis bien chez moi, quoi. Je suis juste bien Martinique. Et puis, j'ai produit quelque chose, effectivement, qui s'adresse à tout le monde. Mais bon, on commence par sa terre, quoi. On commence par ses compatriotes, on commence par ses amis, on commence par sa famille. Donc je viens proposer ça à ma famille de Martinique. Et puis j'espère que... Voilà, là je suis au même stade que tous les autres auteurs, que tous les autres artistes qui viennent proposer une création, en espérant que cette création sera reçue, si possible avec bienveillance et puis avec intérêt. Et je me donne les moyens de le faire, c'est-à-dire que je passe du temps, quoi, à voir les gens, à discuter. Par exemple, merci de me recevoir, mais on passe du temps à parler.
Je suis demandeux à voir, hein. C'est un vrai plaisir. Hein,
Gentil. Mais voilà, donc si vous voulez, ça ne va pas sans risque, mais il faut prendre ce risque-là pour trouver les lecteurs d'un livre qu'on écrit, quoi. Je veux dire, si on ne se donne pas le temps. Et j'ai considéré qu'il fallait que je me donne le temps pour pouvoir travailler cet ouvrage-là, cet album-là. Le premier sort et je suis très 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 fière du premier album, donc Signa sur son nuage, et je trouve qu'il n'est pas assez connu. Donc,
il y a tout un travail à faire pour le relancer aussi.
Oui, mais je n'administre pas la coproduction en fait, mais bon, pour l'instant, mais bon, ça peut se faire, hein. On va voir comment on peut récupérer les choses, en tout cas les faire avancer aussi sur ce plan-là. Mais voilà, donc je suis là pour ça dans un premier temps, et puis pour m'ensoucher, effectivement, me réensoucher chez moi, même si j'ai jamais pris mes distances et j'ai jamais perdu le fil, et puis aussi permettre à ma fille, parce que j'ai une fille de 10 ans, donc qui est née en région parisienne, de trouver aussi ses racines et de s'enraciner ici. À un moment d'ailleurs, c'est pas banal, moi, ça me paraît extrêmement, c'est une pensée qui est vraiment pour moi prégnante. À un moment, on dit que nos pays deviennent vieux, quoi. Alors, même si moi, je deviens vieille, mais ça me touche, en fait. C'est-à-dire que pour moi, revenir chez moi, au moment où on dit, oui, la Martinique vieillit, etc., etc., ça fait un moment que je ne suis pas là, mais j'ai suivi les choses, quoi. Je ne suis pas du tout déconnectée. Pour moi, c'est important. C'était important de me dire, mais oui, je viens proposer quelque chose, notamment aux enfants. Je vis là pendant un moment, ma fille est avec moi, j'y travaille, etc. Donc, c'est un peu le sens de...
Sans compter les autres compétences que vous avez, puisque vous avez toujours cette compétence télé, vous avez toujours cette compétence média, et vous avez aussi cette compétence ministère, c'est-à-dire qu'en fait...
Ma compétence ministère, vous l'avez on passe à autre chose. Hein. Enfin, là, j'ai fait une expérience d'un an et demi, je ne suis pas fonctionnaire.
Vous n'êtes pas un petit peu modeste, enfin, je veux dire, ça compte quand même si, vous savez, en peu de temps, on apprend des choses.
Oui, bien sûr, mais je ne suis pas fonctionnaire. Vous voyez, je suis fondamentalement... J'ai évolué dans le privé la plus grande partie de ma vie et je suis fondamentalement issue du secteur privé. Donc je ne suis pas fonctionnaire. J'ai cette expérience-là, voilà, une connaissance partielle de ce milieu-là qui peut effectivement servir. Voilà. Bon, je me reconnais beaucoup dans la description que vous faites d'une femme de télévision, de médias, clairement. D'ailleurs, c'est l'objet aussi de la société que j'ai créée, Diaspora Mix. Mais oui, bien sûr. Donc,
Barbara, je sais que vous avez, même si vous êtes au pays, vous avez très peu de temps parce que vous êtes très occupée en ce moment. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse quand même parler d'une expérience que vous avez faite aussi, que je trouve assez extraordinaire. C'est la création de votre propre média qui est Diaspora Mix, qui est un site internet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Bon, en fait, quand j'ai créé ma société en 2014... ce qui m'a motivée, c'était que je voulais créer un site qui soit une plateforme en fait communautaire, à l'heure où on n'aime pas ce mot-là en France, par exemple, qui serait un lieu où les originaires, donc les afrodescendants, on va dire, et notamment les originaires des Antilles, bon, moi je suis martiniquais, mon premier réseau est quand même bien caribéen et martiniquais, et antillais, pourraient se connecter. Un peu un Facebook de nos communautés, mais pas communautés qui sont enfermées. Pourquoi ? Parce que Les gens auxquels je pensais, c'est des gens qui sont dans la diaspora, des gens qui sont en Afrique. Je parle, par exemple, Olivier, il vit en Afrique du Sud. Sisley, que des gens que j'ai interviewés, pas Olivier, mais Sisley Loubé, qui est danseuse guyanaise, qui est à Los Angeles, qui travaille avec Rihanna, qui travaille avec Usher, etc. Je pense à... Dernièrement, j'ai vu un sujet, je n'ai pas approché ce garçon, mais un monsieur qui vit au Japon depuis déjà 15 ans, il me semble. Donc, on est nos afro-descendants, nos compatriotes afro-descendants, d'ailleurs, qu'ils soient antillais, mais aussi africains aussi. sont dans le monde. Et en fait, j'avais envie de faire un média qui serait une plateforme de rencontres, pas de rencontres roses, hein, mais de connexions de toutes ces personnes pour dire à la fois leur expérience de l'ailleurs, mais avec leurs racines qu'ils transportent. Quoi. Parce que moi, j'étais dans cette diaspora. Je vis en France, etc. J'ai fondé une famille à Paris, blablabla. Et c'est ça que je voulais. Donc, quand j'ai créé ma boîte, c'est ça que je voulais faire. Et en fait, bon, comme je faisais autre chose, donc j'ai commencé petit, donc j'ai fait un site qui est, disons, basiquement d'information, dont je ne m'occupe pas à 100% parce que je suis seule pour l'instant, qui veut valoriser ses expériences, ses parcours, non pas atypiques, mais juste particuliers, très personnels. Et en fait, donc je fais des interviews que j'envoie parfois, donc que j'envoie par Internet. Je demande, par exemple, quand j'ai interviewé Lud Reynaud, qui est un Martiniquais originaire de Trenel, qui vient à Varsovie, qui est dans l'humanitaire, qui voyage, qui fait des actions avec des enfants. Je crois qu'il était en Amérique latine dernièrement. Mais c'est un type qui a un parcours exceptionnel, qui est un jeune gars qui s'est marié avec une Polonaise, ou bien Sisley, on en parlait tout à l'heure, ou des amis qui sont Martiniquais aussi, qui sont installés en Italie. Donc on a des parcours de gens qui sont heureux là où ils sont, mais qui sont aussi capables de voyager, d'aller à la rencontre des autres parce qu'ils sont de ce pays-là en fait. Qui est un pays, je parle de la Martinique ou de nos Antilles, qui sont des gens, finalement, avec nos contradictions, mais on est ouvert, on est généreux, on a le sens du contact, et puis le sens de l'effort, le sens de finalement de donner vie à nos rêves et à nos envies. Et ça, j'avais envie de promouvoir cette chose-là. Non pas de façon angélique en disant le monde est beau, etc., mais parce que on a cette chose-là à dire et à porter, quoi. Et l'entreprise, comme c'est un terrain qui vous intéresse, mais ces entreprises-là sont des entreprises humaines, quoi, des entreprises vivantes. Et ça m'intéressait. Parce que au cours de toutes mes rencontres ces dernières années, je n'ai jamais cessé de rencontrer des gens comme ça, qui étaient toujours dans l'action.
Des gens formidables, quoi, en fait.
Oui, mais formidable, ça ne dit pas qui ils sont vraiment, en fait. Et personne d'autre qu'eux ne peut dire comment ce que ce formidable-là, à votre sens, peut signifier. Et voilà, donc j'ai lancé ce site en janvier. Donc on a fait vraiment un loose day, tout doucement, on a dit ça à personne, etc. Et puis c'est vrai que j'ai fait l'interview d'Éric, parce qu'Éric, c'est Éric Pédurin, qui est un Guadeloupéen qui évolue donc sur la scène française, antillaise, etc. Vit aux États-Unis à Détroit depuis quelques années, où il a fondé une famille d'ailleurs. Et ça m'a un peu boosté en fait, parce que l'interview était vue beaucoup. Mais bon.
Combien de fois vous savez ou pas?
Plus de 8000, mais très vite en fait. Voilà, très bien. Bon, ce qui est pour moi, c'est pas le milliard, hein, donc ça n'a rien à voir avec les tubes actuels. Mais pour moi qui étais là dans la ferme, mon petit truc, j'avais 20 personnes, 10 personnes, 100 personnes, c'était ouf, le boom. Surtout que je faisais autre chose à côté à ce moment-là. Et en fait, bon, là, le site est un petit peu en sommeil parce que je m'occupe d'autre chose, mais idéalement, il faudrait que je puisse mettre quelqu'un à temps plein sur ce truc pour pouvoir développer et faire vraiment ce que je voulais faire, cette plateforme. Parce que c'était non seulement une plateforme pour mettre en valeur les gens, mais comme je le disais tout à l'heure, une plateforme où les gens se connectent les uns avec les autres. Donc, c'est toujours possible sur le site parce que vous pouvez aller créer votre profil et faire valoir ce que vous avez à dire, etc. Mais que les gens se connectent entre eux. C'était ça l'idée. Et pourquoi pas? Alors, il y a d'autres sites qui existent comme ça. Hein. Je crois qu'il y a un site caribéen qui permettent aux gens de savoir qu'un tel est dans tel pays, etc. Mais aller vers cette...
Caribe expat, je crois.
Oui, je crois que c'est ça, oui. Donc voilà, c'est pas révolutionnaire, mais c'était à la fois donner aussi de l'info, parce que mon métier à la base, c'est de l'info, et que faire découvrir les gens et leur parcours, ça m'intéressait. Donc c'est un peu la direction de ce site-là, qui aujourd'hui, bon, va mollo, hein, je veux dire, j'ai pas tellement les moyens de le mettre à jour très régulièrement, mais je le fais. Et en tout cas, voilà, c'était le point de départ de mon envie de créer cette société-là. Et voilà, je ne suis jamais très loin de mes compatriotes, en fait. Je ne suis jamais très loin de ma base. Et voilà, donc j'espère pouvoir me donner un peu plus de temps pour pouvoir le faire avancer, le développer.
Barbara, je vous propose qu'on arrête cette ITV. C'est pas que on n'ait pas envie de savoir plus.
Voilà,
Pardon ?
Vous n'êtes pas sympa avec moi, vous vous ennuyez avec moi.
Comme non, c'est pas ce que j'ai dit, bien au contraire. Je veux dire qu'on pourrait passer des moments encore plus excellents. Il y a tout simplement que derrière tout ça, il y a malgré tout une femme qui existe, hein, Barbara Jean-Eli. Et bon, celle-là, on la connaît peu. Alors, est-ce qu'on pourrait terminer par ça, pour savoir ce qui vous intéresse aujourd'hui dans la vie?
Mais tout ça dont on parle, sinon on n'en parlerait pas, mais c'est essentiellement ce qui m'intéresse. Et puis je passe beaucoup de temps avec ma fille, quoi. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse. Mais ce que je fais m'intéresse. Hein. On passe beaucoup de temps à travailler et à rencontrer des gens. Et bien, on a la chance, vous comme moi, de faire un métier où on est vraiment au contact des gens. Donc c'est extraordinaire, on a beaucoup de chance. Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein.
Et vous retrouvez le pays comment ?
Ah, je suis contente. Je suis contente, je trouve que j'aime mon île, j'aime ma Martinique.
Mais vous, le pays, vous le beat. Comment vous le...
Les gens, ça change, bon, ça évolue. Bon, on est à Fort-de-France, je trouve dommage que Fort-de-France à 16h, 16h30 soit un peu vide. Quoi. Moi, j'adore Fort-de-France, j'aime me balader à Fort-de-France. Je viens régulièrement dans le cœur de Fort-de-France, j'aime marcher dans Fort-de-France. Bon, c'est vrai que je suis triste parfois de voir que la ville est un peu fermée. Là, on est sur la savane, mais il y a des échoppes, mais les échoppes de la journée sont fermées. C'est dommage, quoi. Je pense que ça aurait été bien de trouver le moyen de les animer, parce que c'est une ville qui est belle, c'est une ville qui est d'histoire, c'est une ville qui a plein de choses à raconter. Mais donc ça, ça me rend un peu triste, parce que ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un pays, le pays vieillit, le pays un peu dans le changement, quoi. Mais je trouve que les gens sont aussi... J'aime mes compatriotes martiniquais. J'entends beaucoup de gens frustrés, de gens qui disent parfois qui disent du mal, hein, de la Martinique, hein, beaucoup, et ça me choque. Je ne comprends pas, je trouve ça injuste. En fait, ils disent ouais, les Martiniquais sont ceci, les Martiniquais sont cela. Alors peut-être que ça peut paraître facile parce que moi j'ai vécu ailleurs, mais bon, je suis allée travailler ailleurs, j'ai fondé une famille ailleurs. Bon, j'ai fait quand même, comme je dis, j'ai fait quand même ma part en Martinique. Hein. Je suis venue, j'ai participé à un projet, j'ai travaillé 10 ans, je suis partie, j'ai fait d'autres expériences. Maintenant, j'ai la volonté de m'enraciner, de me réenraciner, ne serait-ce que pendant un moment pour travailler, continuer à travailler. Mais je trouve injuste, en fait, quand j'entends des gens dire « Ouais, la Martinique, le Martiniquais, blabla », ça m'énerve. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Après, je pense qu'on est fondamentalement bienveillants, qu'on est des gens gentils. Et peut-être, parfois, on manque parfois un peu d'exigence les uns avec les autres. Parce qu'on veut pas être dur avec les uns avec les autres. Mais je suis profondément... comment dire, je suis bien en fait dans mon pays, dans mon île, j'y trouve mon équilibre et je trouve qu'on a beaucoup de... En fait, il faudrait qu'on fasse plus valoir nos forces, quoi, parce qu'on est fort, on est ouvert, on est à la fois des gens qui sont centrés et un peu nombrilistes, parce qu'on est des Iliens, mais en même temps, on a le regard toujours porté vers l'horizon, quoi. Vous n'avez pas ça quand vous êtes à Paris, quand vous êtes même dans une ville, mais machin. Vous êtes à la fois dedans et vous êtes toujours porté vers l'extérieur. Donc ça crée une espèce d'ambivalence, peut-être de dualité qui est difficile à vivre au niveau psychologique, au niveau personnel. Mais ça crée une force, ce truc-là. C'est-à-dire, quand je m'intéresse à la diaspora, mais c'est ça qui fait que les gens, ils ont soif d'aller vers l'ailleurs. Ils reviennent, mais ils ont... Donc, je pense qu'on n'a pas fini... Comment dire, de faire valoir ces ressources-là, quoi. Même nous, moi j'en parle et tout, comme si c'était une intuition, mais je pense qu'on n'a pas fini d'exploiter et de comprendre jusqu'où ça peut nous emmener, en fait, en réalité. Et peut-être qu'il faudrait qu'on soit un petit peu plus exigeants les uns avec les autres, en demandant aux gens de rendre compte. Parce que, voilà, de rendre compte, vous êtes là, on vous a donné... Là, on parle de politique, par exemple, de rendre compte. On vous a dit, on vous fait confiance, on a voté pour vous. Qu'est-ce que vous faites de ça ? Parce que c'est de la confiance, on parle de ça. Donc peut-être que c'est ça aussi qu'il faut, peut-être qu'on travaille et tout. Et peut-être aussi que, voilà, c'est ce rapport-là à nous-mêmes, en réalité. Peut-être qu'il faut qu'on affine pour qu'on soit encore mieux dans notre peau et qu'on soit encore mieux, quoi, tout simplement.
Ok, ben merci, au revoir Barbara et à bientôt.
Je ne m'appelle pas Barbara.
Barbara,
comme je dis.
Il n'est pas facile.
C'est comme aux enfants. Les enfants ont du mal à dire ça. Ils disent Barbara, B-A-R-A, pour respecter le beau prénom que ma mère m'a donné. Mais il faut savoir que j'avais horreur, je détestais mon prénom quand j'étais enfant. Donc merci Victor.
À bientôt.
À bientôt, bye bye.